Les rendez-vous de Bernard Roth, Senior Advisor IEIF et membre de l'Académie d'architecture.
Le mardi 3 décembre 1935 sort à Paris un film réalisé par Jacques Feder intitulé « La kermesse héroïque ». À l'affiche, son épouse Françoise Roset et puis Louis Jouvet. Ce film ouvre la voie au réalisme poétique au cinéma, réalisme que développera son assistant Marcel Carnet avec son complice Jacques Prévert. Et le 19 décembre, par parenthèse, la môme Piaf a 20 ans, est voté à Paris le changement de nom de la ruelle des Gobelins dans le 13e arrondissement, devenue ce jour-là la rue Gédéon Berbier de Metz. Ce petit cadrage historique pour accueillir Thierry Sarment, qui est entre autres historien. Bonjour monsieur le directeur et cher Thierry.
Bonjour Bernard.
Vous êtes conservateur du patrimoine et directeur des collections du Mobilier National. Certains de nos auditeurs vous ont vu naguère dans des émissions de France 2, à propos notamment de Louis XIV et de Philippe d'Orléans. Vous êtes aussi chartiste, une des écoles les plus prestigieuses d'Europe. Et puis vous êtes aussi HDR, le titre universitaire le plus élevé et probablement le moins connu de nos auditeurs. Qu'est-ce que révèlent ces initiales ?
HDR signifie « habilité à diriger des recherches ». C'est un titre qui n'existe qu'en France, parce que les Français aiment bien inventer des choses uniques au monde. Pour l'expliquer, il faut revenir à 1984. Qui n'est pas que l'année qui désigne un roman célèbre. En 1984 a pris fin ce qu'on appelait auparavant la thèse d'État, autre exception française, qui était que pour devenir professeur d'université, il fallait réaliser une très grosse thèse qui prenait 10 ans, 15 ans, qui parfois n'était jamais soutenue, jamais terminée. Pour commencer à aligner le système universitaire français sur le système anglo-saxon dominant, on a supprimé à cette époque la thèse d'État, on a laissé terminer celle qui était en cours. On a remplacé la thèse d'État par la nouvelle thèse, une thèse en 3 à 5 ans, sur le modèle du PhD anglo-saxon. Mais comme les Français aiment bien subvertir les réformes, on a remplacé le doctorat d'État par l'HDR, l'habilitation à diriger des recherches, qui est donc un nouveau mémoire après la thèse, qui n'existe pas ailleurs, et qui permet, une fois qu'il est soutenu, de prétendre à des postes de professeur des universités.
Très bien. Vous êtes également numismate. Qu'est-ce qu'on a à apprendre des collectionneurs de monnaies ou de médailles ?
Alors, donc la numismatique, c'est la science qui étudie les monnaies, les médailles, les objets tantôt monétaires, tantôt commémoratifs. Alors, c'est une science surtout intéressante pour les époques où on n'a pas ou peu d'archives, notamment pour l'Antiquité et le Moyen-Âge, puisque par l'étude des monnaies, à la fois des émissions et des compositions métalliques des monnaies subsistantes, on arrive à reconstituer les mouvements monétaires, les cycles économiques, tout ce qui nous échappe du point de vue historique, c'est-à-dire la réalité de la vie économique dans les siècles qui ont précédé, je dirais, le 13e, 14e, le moment où la production documentaire papier explose.
Très bien. Eh bien, ayant un peu débroussaillé ces deux, trois questions préalables, parlons de l'essentiel, c'est-à-dire du Mobilier National. Je vous laisse peut-être nous décrire sa mission, peut-être quelques mots de son histoire qui peut-être nous ramène à Berbier de Metz et puis aussi ce qu'on y trouve.
Le Mobilier National, c'est encore une exception française. C'est une institution qui est à la fois un garde-meuble et un ensemble de manufactures. Garde-meuble qui sert à meubler les édifices publics, palais de l'Élysée, hôtel de Matignon, ministère, ambassade, etc. Et un ensemble de manufactures qui produisent des tapis, des tapisseries, des meubles qui eux-mêmes vont aller se retrouver dans les édifices publics. Ces manufactures, elles ont des noms célèbres. Il y a la manufacture des Gobelins, la manufacture de Beauvais, la manufacture de la Savonnerie. Il y a également des ateliers de dentelle au Puy et à Alençon et un atelier qui produit du mobilier design qui s'appelle l'ARC, Atelier de Recherche et de Création, créé par André Malraux en 1964. Alors tout ça a en fait une histoire fort ancienne. Le garde-meuble, il n'y a pas de date de création, il a toujours existé. C'est le garde-meuble de la couronne, les rois du Moyen-Âge étaient itinérants. Ils allaient de château en château et il y avait un chariot avec un valet de chambre qui suivait avec, ou qui précédait avec les tapisseries, les tapis et les quelques meubles. Et c'est de ce processus qu'est né le garde-meuble de la couronne qui s'organise définitivement avec Louis XIV et Colbert. Et ainsi, on a une sédimentation des collections qui fait que encore aujourd'hui, on meuble en partie les édifices publics avec des objets qui ont pu être achetés au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Alors, le grand enjeu maintenant, c'est de renouveler tout cela, puisque nous sommes dans un véritable changement de civilisation. Les objets parlent moins que l'espace, pour signifier le luxe et le prestige. Et puis, les objets du passé nous parlent moins, parce que la culture humaniste tend à s'effacer. Et donc, la partie ancienne de nos collections, elle va de plus en plus être déposée dans des musées, dans des châteaux, au Louvre, à Versailles, à Fontainebleau, à Malmaison. Et à l'inverse, on va continuer à créer du patrimoine, à la fois par nos manufactures et puis par des acquisitions auprès des créateurs français. C'est une démarche analogue à celle qu'avaient Louis XIV et Colbert en leur temps, qui eux n'achetaient pas de l'ancien, hein. Ils faisaient du moderne, ils faisaient du contemporain.
Et ces manufactures, elles ont l'État pour client. Est-ce qu'elles ont d'autres clients ?
Alors, à travers leur histoire, l'État est le client principal, mais il y a toujours eu des exceptions. Dans les périodes de crise, on s'est souvent tourné vers le privé. Et encore aujourd'hui, on accepte des commandes d'État. Par exemple, actuellement, la manufacture des Gobelins tisse de grandes tentures pour le royaume de Danemark, qui sont d'ailleurs pour sujet l'histoire du Danemark. Il faut savoir que la reine de Danemark est mariée à un Français et que donc il y a des liens étroits entre cette famille royale et la France.
Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve
Alors, 130 000 objets, ce qui ne dit pas grand-chose, que ça peut être aussi bien une armoire à glace qu'un petit bout de tissu. Pour être plus concret, je citerai que nous avons 2 700 tapis, 3 700 tapisseries, 16 000 meubles meublants et 26 000 sièges. Et je ne parle pas des lustres, des vases. Donc, tous les objets qui peuvent servir à la décoration, à l'ameublement, à l'aménagement de l'espace, puisque la grande tradition française consiste à faire ce qu'on appelle des ensembles. C'est-à-dire qu'on cherche à faire que le meuble, les tentures, les objets se correspondent, fassent un tout harmonieux. Et si on veut se rapprocher de la thématique générale de Radio Immo, les Français ont toujours été reconnus en Europe et dans le monde pour leur art de la distribution, c'est-à-dire la capacité à aménager intelligemment l'ordonnance des pièces. Et le décor est un peu la suite de ce processus. La France est un grand pays d'art décoratif qui consiste pas simplement à entasser les objets, mais aussi à savoir composer, encore une fois, des ensembles qui forment un tout harmonieux.
Alors ça ouvre la question que je voulais poser, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce que ça nous apprend, ces 130 000 objets, par rapport à la période contemporaine, à la mutation extraordinaire du monde entier dans lequel nous nous trouvons ? J'ai envie de dire, non pas seulement à quoi ça nous sert, peut-être est-ce que ça démontre l'excellence de la conception et de la fabrication, mais au-delà, est-ce que ça raconte autre chose ?
Alors, on voit d'abord évidemment, le rapport étroit entre la commande publique et la création, qui a toujours existé. Une grande partie des designers français contemporains célèbres ont produit pour l'État et ont même été lancés par l'État. Par exemple, Pierre Paulin, célèbre designer qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant, Paulin, il a commencé grâce au Mobilier National. Donc il y a toujours eu cet aller-retour entre cette économie d'État qui n'est pas en elle-même source de bénéfices pour l'État. En revanche, elle sert de figure de proue à un écosystème de l'industrie du luxe qui est beaucoup plus vaste et qui, lui, est un des rares secteurs industriels français qui a toujours été bénéficiaire depuis le XIVe siècle.
Et qui participe au rayonnement, indépendamment de l'intérêt.
Et qui participe au rayonnement, évidemment, de la France, aussi bien dans le domaine des arts en général que plus précisément des arts décoratifs ou de l'architecture.
Mais un autre volet de ma question, c'est est-ce qu'on a finalement des choses à apprendre de ce passé ? Et j'ai même envie de dire de l'épaisseur de ce passé.
Alors, ce qu'on peut voir d'abord, on est dans une époque de nostalgie. De nostalgie puissante, d'époque idéalisée, que ce soit, suivant les opinions, le 16e, le 17e, le 18e, les années 60, quand on est M. Zemmour. Et ce quand on se replonge dans ces collections, on voit qu'en fait, les siècles qui nous ont précédés n'étaient pas nostalgiques. C'est-à-dire que Henri IV, il faisait du Henri IV, il faisait ce que nous appelons nous du style maniériste. Louis XIV commandait du Louis XIV on se séparait très facilement de ce qui était ancien, avec quelques exceptions, notamment en matière de tapisserie, parce que on admirait encore la Renaissance. Et puis sous Napoléon, on faisait du consulat et de l'Empire, on faisait de l'expérimentation. Il y a toujours eu un sens du patrimoine. Il y avait des objets patrimoniaux. Quelques grands chefs-d'œuvre qu'on admirait. La Joconde, elle a toujours été admirée, avec plus ou moins d'intensité suivant les époques. Chaque siècle était contemporain du sien. Et on est arrivé avec le 19e et le 20e siècle à un moment où on a cessé d'être nos propres contemporains. Ou en tout cas, on a eu un malaise par rapport à ce rapport au passé. Et nous sommes dans on est toujours dans cette espèce de contradiction entre une nostalgie du passé et puis une volonté de faire moderne, de faire contemporain.
Mais est-ce que il y a toujours eu ce conflit ancien-moderne? Autrement dit, quand sous Louis XIV on faisait du Louis XIV, est-ce que ça choquait parce que ça n'était pas ce qu'on faisait avant et qu'on se disait, mais enfin, c'est pas normal?
Pas du tout. Non, non. En fait, alors, si on veut approfondir la chose, la vraie scission, c'est 1789.
D'accord.
C'est le moment où il y a les nostalgiques de l'avant qui deviennent une faction, et même chaque Français est partagé entre lui-même, entre une partie qui regarde avant 1789.
C'était mieux avant.
Oui.
Et puis, c'est ça.
Voilà.
C'est Michel Serres qui disait « c'était mieux avant, ça tombe bien, j'y étais », et il explique, vers la fin de sa vie, près de 90 ans, il explique en quoi c'était épouvantable, enfin, ou plus exactement, il y avait aussi une description épouvantable.
Alors, je suis historien, et ouais, ce qui fait que ça m'évite la nostalgie, parce que je connais les conditions de vie matérielle des hommes des 16e, 17e, 18e, et même quand on se plonge dans les conditions de vie des années 1950, la plupart de nos contemporains n'auraient aucune envie d'y revenir.
Oui, c'est tout à fait éclairant, y compris par rapport à certains débats politiques qui réapparaissent comme à de bien mauvaises époques. J'évoquais 1935 en commençant cette émission, je ne sais pas si c'est la période la plus heureuse.
Alors, c'est une période heureuse puisque c'est le moment où on construit le bâtiment pérenne immobilier
national.
Oui,
alors c'est magnifique, exact.
Donc, absolument, pour nous, c'était une période heureuse.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce bâtiment? Oui. Alors, c'est finalement pas si connu que ça des Parisiens.
Pérenne
n'est pas très connu.
Parce que ce quartier de la rue Berbier-Dumaise dont vous parlez est en fait assez à l'écart. Il est derrière l'avenue des Gobelins, donc en fait, il n'est connu que des gens qui l'habitent. Pourtant, il y a un magnifique parc qui s'appelle le Square Legal. Il y a ce bâtiment Perret qui en fait, c'est le Havre 10 ans avant le Havre. Bâtiment de béton, architecture qui se veut d'avant-garde et qui, en même temps, est rempli de références au passé, puisque Perret est à la fois un moderne et un homme empreint de l'influence de Vitruve et de tous les architectes du passé. Alors, c'est amusant parce que donc il a dû construire. C'est un prix de consolation qu'on lui donne parce qu'on lui a refusé le Trocadéro. Et il a un an pour faire un programme absolument délirant, puisque dans le même édifice, vous avez des bureaux, des logements, des ateliers et des réserves. Bon, donc il va très vite. Son plan n'est pas absolument sans défaut. Mais enfin, je constate que maintenant, plusieurs décennies après, le bâtiment a bien tenu le choc, puisque j'y travaille tous les jours et on s'y trouve fort bien. Et notamment, l'architecture de bureaux, puisque c'est un sujet que je pense que vous devez traiter, est très, très agréable.
À vivre?
Très agréable à vivre. Ouais, très agréable à vivre. Ça, je pense qu'on a, pour l'architecture de bureaux, on a des leçons à tirer des architectes du 1er 20e siècle.
Et puis alors, il nous a appris que, là, je pense plus à l'extérieur et au fond à la participation à la rue et à la ville, il nous a appris qu'on pouvait exprimer un bâtiment par la structure qu'il porte, au fond comme le gothique avec les cathédrales, etc., etc., et y trouver une certaine forme d'esthétisme, tout en conservant des codes classiques de fenêtres verticales, etc. Bon, c'était quand même très très audacieux pour l'époque.
Un architecte austère, mais très attaché aux détails. Alors bon, il a son idée, effectivement, la structure apparente, le bâtiment lisible, voilà, c'est sa doctrine. Moi, je suis surtout attentif à la qualité des finitions. C'est-à-dire que le béton n'est pas un matériau secondaire ou médiocre. C'est un matériau qui est magnifié par notamment l'utilisation de ce qu'il appelle la mignonnette, c'est-à-dire un granulat qui prend des couleurs différentes suivant les lieux où il est utilisé. On sent qu'il a suivi son chantier de très près. qualité des matériaux, de revêtements. Alors, ça va même jusque dans la hiérarchie des bureaux, puisque le bureau du directeur a un parquet en point de Hongrie, mais le bureau du directeur des collections n'a qu'un parquet à l'anglaise.
Eh bien, nous avons commencé avec le cinéma, nous terminons avec l'architecture, et entre-temps, nous avons fait un très très beau voyage. Merci infiniment Thierry, et à bientôt, j'espère.
Merci à vous Bernard.
Les rendez-vous de Bernard Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.